Un épisode spécial réalisé au bénéfice de l'association de Baraco.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, Abdelrahman Dia au micro. Un grand plaisir de vous retrouver pour cette émission à votre avis sur VOA Afrique. On va parler des attaques djihadistes qui se multiplient au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ceci malgré des mesures annoncées par les autorités de ces pays et la communauté internationale. D'ailleors, le président togolais Faure Gnassingbé, dont le pays est frontalier du Burkina Faso, dit que la menace est réelle pour le Togo, même si aucune attaque n'a jusque-là été enregistrée dans ce pays. Comment expliquer cette hausse de la violence dans le Sahel? Comment arrêter ces attaques et éviter que ces attaques ne s'étendent à d'autres pays? Voilà les questions que nous allons aborder avec vous. Je rappelle le numéro pour participer en direct, c'est le 001 202 205 26 33. Nous avons déjà deux auditeurs, me dit-on. Voilà, Salomon depuis Kinshasa. Salomon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs de la Nouvelle Afrique.
Voilà, donc vous dites que les pays de la région ont des limites, c'est ça? Ils sont un peu limités.
Oui, effectivement, moi je pense qu'il y a une fois, j'avais déjà intervenu par rapport à ce sujet, à la même chaîne. Le président sont limités de quelle façon, depuis qu'ils ont annoncé un dialogue avec les djihadistes, c'est déjà une faiblesse. Je ne pense pas que ceux qui sont sanguinés ont fait venir tendre la main, après qu'il y avait des effets sur la main saine, disant que non, nous allons leur demander qu'on se parle pour vu que c'est terminé. Toutes ces guerres-là, toutes ces tirées-là. Ces gens-là aussi ont peur. Moi, je pense que la touche des choses à faire, la communauté internationale doit évaluer sur le financement de ces djihadistes-là. Ce sont des gens, comment ils sont ravitaillés de temps en autre dans différents sujets, compte au moins 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, là où il y a toujours des tirées, comment ils sont financés, comment leur restauration est bien mesurée. Et puis, ces gens-là n'ont jamais perdu. Ils ont même des enjeux qui sont capables de traverser des déserts et des déserts. À chaque fois qu'ils attaquent des camps militaires, il y a des morts à tel point que même ils emportent encore les armes
des militaires.
Des militaires. Donc, pour moi, je pense que la communauté internationale doit plus renforcer son service de contrôle, savoir qui finance et sanctionner ces gens-là. Et puis, ne pas aller au dialogue, ni chercher un autre mécanisme qui peut les encourager à trouver toujours la fenêtre du gouvernement. Le gouvernement doit utiliser sa force majeure pour éradiquer ces gens-là. Donc, on n'a pas à négocier, sinon que le peuple khmer, bien que les gens compatissent avec le peuple, mais il n'y a pas aucun enfant parmi eux. Donc, ce sont le peuple qui se perd, et le même peuple, là, n'a pas de sens.
Voilà.
Ce sont
merci beaucoup, Salomon Mungidou, depuis Kinshasa. Nous avons Bakary Keïta au Mali. Bakary, bonsoir.
Bonsoir, Abdrawan.
Oui, merci à vous et à tous les auditeurs qui nous écoutent au Mali. Alors, on a vu ces attaques qui ciblent les civils notamment. On a au Burkina une attaque contre une église protestante qui est aussi un autre aspect de la question. Ils ciblent des lieux de culte. Comment est-ce que vous jugez tout cela? Pourquoi tout d'un coup on voit dernièrement toutes ces attaques?
Parce que si les terroristes, ils ne sont pas décapités, hein. Par exemple, souvent certains chefs quand même ont été tués, mais ils ont surtout des racines ici au Mali, parce que dans un premier temps, le Mali était le ventre mou, parce qu'après la crise de la Libye, beaucoup de terroristes quand même se sont vraiment convertis vers les grottes du Mali. Et ouais, donc, étant ici, ils sont en train quand même de multiplier les attaques. Maintenant, pour les contrecarrer maintenant, il va falloir que nous soyons vigilants. Parce que c'est la guerre, c'est une guerre asymétrique. Même les plus grandes nations quand même sont vulnérables. À plus forte raison, vraiment, nous, vraiment, les Africains, il va falloir qu'on soit vigilants et se donner vraiment les moyens. Et surtout, on doit essayer d'avoir quand même l'aide des Américains pour ne serait-ce que pour le renseignement. Parce que dans une guerre, il faut avoir quand même les renseignements vraiment pour contrecarrer vraiment ces terroristes qui sont vraiment extrêmement des stratèges, ils sont fins et ça sera quand même un peu difficile, mais il va va falloir quand même qu'on soit vigilant pour essayer de venir à bout vraiment de ces sanguinaires.
Bakary, il y a cette nécessité de la coopération aussi, non seulement entre les pays touchés, je pense notamment au G5, mais à d'autres pays qui ne sont pas membres du G5. Vous avez entendu Fornia Simbe du Togo qui aussi se préoccupe de ce qui se passe à la frontière de son pays avec le Burkina Faso.
Moi, je crois que c'est l'Union qui pourra quand même vaincre ces terroristes. Hein. C'est pas seulement que ce soit vraiment un cercle restreint, le Mali, le Burkina, le Niger, le G5, on doit aller au-delà. Et les autres doivent être vigilants. Par exemple, le Niger, il y a le Boko Haram. Par exemple, au Cameroun aussi, il y a des indices aussi de Boko Haram. Donc, on doit vraiment se donner la main pour vraiment pouvoir vaincre vraiment ces terroristes. C'est surtout les renseignements et la vigilance quand même qui peuvent venir à bout vraiment de ces terroristes. Et on demande vraiment l'aide des Américains, ne serait-ce que pour le renseignement.
Pour le renseignement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Bakary, pour cette réaction. Nous avons Sédou Kassongo depuis la RDC également. Sédou, bonsoir.
Oui, bonsoir à la VOA, bonsoir à toutes les communautés qui nous suivent en ce moment.
Voilà, bonsoir également à tous les auditeurs qui nous écoutent dans ce grand pays, la RDC. Alors, vous parlez de situation alarmante.
Donc, nous déplorons parce que ce sont des victimes d'une enfance qui perdent de leur vie. Et ces mouvements d'adultes qui ne cessent de demander des familles, c'est une situation extrêmement alarmante, mais une situation qui devrait être régularisée par une prise de conscience de nos dirigeants africains, mais aussi de nos partenaires externes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ces groupes armés ont des revendications, alors que ces revendications devraient être suivies par les dirigeants de pays touchés par un temps de dialogue. Dernièrement, j'ai suivi l'appel du président malien qui était prêt de pouvoir dialoguer avec les groupes armés opérant dans son pays. Mm-hmm. Et c'est aussi une approche, mais la plus grande approche est celle de bien respecter les prérogatives constitutionnelles. Si aujourd'hui nous avons des groupes armés, ça et là, c'est parce que la plupart des dirigeants africains ne respectent pas le mandat constitutionnel. Ils veulent aller au-delà de ce qui est prévu par la Constitution, et c'est aussi une entorse. Mais aussi la communauté internationale qui joue à la ruse, à la malice, de pouvoir venir créer la guerre à travers le financement de groupes armés pour profiter de nos ressources naturelles. Cette situation doit certainement prendre fin parce que la population africaine a besoin de vivre dans la paix.
Alors, Sédou, c'est vrai que dans ce cas, on parle du Sahel, mais en RDC, quand on voit un peu ce qui se passe à Beni, est-ce que pour vous, il y a une similarité entre les activités des ADF et un peu ce qu'on voit dans le Sahel? Parce que là aussi, il s'agit de victimes civiles, hein, pour la plupart.
Oui, Allô?
Oui, je dis pour la plupart, c'est des victimes civiles qu'on voit ici, même dans le cas des ADF à Beni.
Effectivement, ce sont de victimes civiles qui en pâtissent. Mais la guerre à l'est de notre pays, une guerre asymétrique, à travers laquelle il y a eu vraiment des raisons qui ont été évoquées par cette guerre. Donc il y a certains au cadre de notre pays, de certains politiciens qui sont derrière cette guerre, mais pas seulement certains politiciens, mais aussi certains membres de la communauté internationale qui financent ces groupes armés. Mais je suis certain, avec les efforts consentis par nos forces armées, actuellement, nous enregistrons de victoire dans victoire. Certes que la situation n'est pas encore maîtrisée à 90%, mais le bastion des ADF ont été récupérés par nos forces armées. Et je les encourage de continuer à faire la traque. Mais aussi, je rappelle l'appel du chef de l'État, son Excellence, monsieur Sékou Touré Félix, qui avait appelé à la reddition volontaire.
D'accord.
Et les chefs de guerre, les seigneurs de guerre, qui ayant compris cet appel, viennent auprès des forces armées pour déposer les armes. Et ici, je rappelle également que j'appelle également à tous ces groupes armés négatifs qui opèrent à l'est du pays de venir déposer les armes pour consolider la paix dans cette partie.
Voilà. Merci beaucoup, Sédou Kassongo, depuis la RDC. On reste en RDC, notamment à Kinshasa, avec Alphonse Mbouaké. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Abdelhamid. Moi, je pense que l'option militaire doit être maintenue. Hein. Parce qu'il faut qu'on rende opérationnel les jeux centrales. Il y avait problème de financement. Donc, il faut vraiment qu'on donne des moyens à ce groupe pour qu'il soit, soit présent sur le terrain. Et puis, à part ça, je trouve aussi la thèse de Boubacar Keïta. Boubacar Keïta, le président malien, qui a suggéré que si on peut aller à des négociations avec ce djihadiste, peut-être ça peut aboutir à des solutions durables. Donc, ce n'est pas toujours rester cantonné sur l'opération militaire pour trouver des solutions aux intentions djihadistes. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi associer les populations. Hein, pour en fait, c'est celle-ci dénonce tout ce qu'on trouve de suspect dans les cafés, dans les rues, dans les avenues. Il faut dénoncer ces gens-là.
Donc il faut que les populations coopèrent.
Par rapport à RDC Congo, je pense que la base, ce sont des islamistes, ce sont des djihadistes. Le mode opératoire est djihadiste. Quand on voit comment on coupe les gens de tête, donc je pense qu'il faut une implication forte de la communauté internationale, une implication armée, une implication d'armement pour que le service, donc l'armée congolaise, soit dotée d'armes efficaces pour débusquer, pour neutraliser toutes ces forces. D'ailleurs, les services ont commencé déjà à tuer beaucoup de gens, mais on ne comprend pas comment ces gens-là continuent toujours à exister. Donc, je pense que vraiment, il faut une application forte, une mutualisation des forces. La MONUSCO, on a décrié sa présence là-bas, mais maintenant, là, vraiment, je trouve qu'il faut qu'elle change, des mandats, qu'elle soit forte. La MONUSCO a beaucoup d'armement, mais plus vraiment, je ne sais pas comment elle est. Elle ne tient pas sur le terrain. Donc, je pense qu'en RDC, la solution, les pays voisins, le Rwanda et le Uganda, il faut qu'ils démocratisent leur politique pour que ces groupes-là qui viennent de leur pays puissent rester sur place, se transformer en parti politique et que la RDC soit en paix.
D'accord. En tout cas, merci. Voilà. Merci beaucoup, Alphonse. On va à Bujumbura. Nous avons Thierry en ligne. Thierry, bonsoir.
Bonsoir, merci. Bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, toutes ces attaques de djihadistes dans le Sahel, quel est votre commentaire sur cette situation dramatique?
D'abord, monsieur le journaliste, moi, je regrette beaucoup parce que avec l'intervention de la France et surtout dans le Sahel, je prétendais peut-être que pour le moment on allait maîtriser les attaques terroristes. Mais pour le moment, vraiment, je regrette beaucoup et surtout je trouve que non seulement les autorités africaines, mais aussi même les simples citoyens, ils ont tous laissé, ils ont donné toute la responsabilité à la France, ils ont donné toute la responsabilité à l'Occident. Ce qui me paraît vraiment comme faux, parce que d'abord la France est là pour intervenir. Et il y a quelqu'un qui vient d'intervenir et qui a dit qu'il faut que la population coopère. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que dernièrement, j'ai entendu le président malien dire vouloir négocier avec les terroristes. Là, si vous voulez négocier avec les terroristes, c'est que vous voulez leur donner
de la force.
Comme ça, ils vont intervenir, ils vont agir. Soit disant, peut-être que les autorités africaines commencent à les reconnaître comme des éléments forts. Vous voyez, parce que si le président accepte de négocier avec les terroristes, là, c'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Je dis donc que les autorités africaines pensent toujours qu'il faut que les étrangers interviennent. Nous allons toujours échouer. Et les attaques terroristes vont se multiplier. Donc, pour moi, il faut agir. Il faut peut-être créer une stratégie qui pourra non seulement inclure les agents de sécurité et les militaires, non, mais aussi il faut que la population soit aussi impliquée.
D'accord, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry depuis Bujumbura.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Nous allons à Brazzaville. Nous avons Sow Abdourahmane. Monsieur Sow, bonsoir. Vous êtes en ligne.
Oui.
Bonsoir, Abdourahmane Sow.
Oui.
D'accord.
Bon, moi, je disais pour lutter contre ces djihadistes au nord du Mali, il faudra que la population coopère. Parce que j'avais entendu que le président burkinabé disait qu'ils vont former des civils qui vont coopérer avec les militaires pour bien lutter efficacement contre ces gens-là. Mais je vois bien qu'il n'y a rien qui se passe parce que...
Et vous trouvez que c'est une bonne solution, le fait de former des civils pour aider l'armée dans cette lutte?
Oui, c'est ça que le président burkinabé disait, ça pour former les jeunes dans des villages pour bien lutter contre ces gens-là. Mais si ça continue comme ça, parce que les djihadistes continuent toujours à tirer. Et ce qu'ils font, ils divisent la population civile. Parce que au Mali, on voit entre les Godons et les Pils qui se tirent entre eux-mêmes. Ça, c'est pas des djihadistes qui tirent, c'est la population civile même qui s'est entrée. C'est ça le problème.
Ouais.
Pour lutter contre ces gens-là, il faut que la population civile même s'est unie d'abord contre ces gens-là pour bien lutter contre ces gens.
D'accord. Sinon, et sur Facebook.
Si la population se divise.
Abdourahmane.
Ça fait pas.
Oui, tout à fait. Sur Facebook, vous dites également, vous faites appel à la CEDEAO, hein?
À la CEDEAO de tout le monde, tout la CEDEAO, parce que c'est un problème de la CEDEAO. Mmh. Ce qui se passe au Mali, ça affecte tout le CEDEAO, ça paralyse les jeunes CEDEAO, ça se voit, la circulation, ça ne passe plus. C'est devenu quelque chose d'insoutenable. Vous avez entendu le président togolais, Faure Gnassingbé, ce qu'il dit, c'est...
Ouais.
Même le Togo n'est pas épargné parce que ce qui se passe au Burkina, c'est pas loin du Togo.
Tout à fait.
C'est quelque chose qui est très très dangereux. Il faut que la population de la CEDEAO
Il faut pas que les autres pays attendent d'être attaqués pour réagir. Il faut qu'ils aident déjà les pays qui sont touchés.
Parce qu'on voit, on voit même, on entend les Américains qui veulent partir, mais parce que si nous les citoyens de CEDEAO, on n'aide pas nos voisins, on attend les Américains et les Français de venir nous aider. C'est ça le problème. Il faudra que la CEDEAO même se mette en place pour aider et les gens voient que la CEDEAO travaille et les autres voient venir nous aider. Sinon, ça ne peut pas être passé. Ces gens-là, je ne sais pas.
Voilà.
On ne peut pas négocier avec eux. Moi, je n'ai pas des avis avec le président malien de négocier avec des gens qui nous tuent chaque jour.
D'accord.
On ne peut pas négocier avec eux.
D'accord,
il faudra
merci.
Les affronter et faire tout possible que les gens arrêtent de tuer les citoyens.
Voilà, merci beaucoup Abdourahmane Sow depuis Brazzaville. Et à Ouagadougou, on a Aziz Younga. Aziz, bonsoir.
Oui, bonsoir VOA Afrique, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
D'accord, et vous, en fait, votre pays est vraiment aujourd'hui touché. Comment est-ce que vous voyez tout cela?
Vraiment, moi je trouve que le problème réside au niveau de la gouvernance d'abord. Parce que tout simplement, je ne sais pas comprendre qu'il y a plusieurs années, depuis 2015 jusqu'à là, le Burkina Faso n'est plus que suivi des attaques. Et que jusqu'à présent, les autorités ne prennent pas conscience vraiment de ce fléau. Parce que les problèmes qui se posent jusqu'à présent, au niveau même des soldats, on attend certains problèmes comme par exemple les problèmes de paiement des primes, les problèmes des non-équipements même adéquats même de ces soldats-là, ainsi que même les arrêts de salaire. Donc on ne peut pas comprendre que vraiment les gens qui sont là pour lutter, pour sauver vraiment l'intégrité de la nation et qu'ils ne sont pas vraiment à l'aise, pensatifs pour vraiment faire leur travail.
Donc voilà, il faut d'abord régler la question de la motivation des troupes pour vous, c'est ça?
Oui, il faut motiver les troupes. Parce que tant qu'ils ne sont pas motivés, vraiment, ils ne peuvent pas se donner comme ils se doivent. Voilà, donc la motivation, vraiment, le paquet est le primordial. Hein. Voilà, sans la motivation, ça ne peut pas te donner à fond. Voilà, même si tu as les qualités, c'est un peu compliqué. Vraiment, moi, je vois que dans 17-17 ans, les soldats burkinabés ici, particulièrement, bon, ils font des efforts vraiment sur le terrain parce qu'on voit que depuis là, bon, surprendre ces soldats-là pour attaquer comme avant, là, bon, ils ont commencé vraiment à s'adapter vraiment à la tactique même de ces ennemis-là.
Mais
donc,
comment
mais c'est pas même.
Comment est-ce que vous expliquez cette facilité de mouvement de ces groupes armés dans une région pratiquement aride? Le Sahel, c'est quand même une zone où on n'a pas ces forêts denses. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ils arrivent à se déplacer assez facilement et à mener des attaques d'envergure?
Oui, tout ça, c'est parce que tout simplement, le problème, moi je disais d'abord, le problème est politique. Voilà, c'est politique d'abord. Puisque je peux comprendre que vraiment des individus qui circulent avec de simples motos, dans des régions vraiment, comme vous l'avez dit, et qu'on n'arrive pas à les voir, c'est un peu compliqué. Donc, bon, de ce côté, je peux aussi parler, par exemple, des pays qui disent, soit ils vont nous aider. Bon, avec le matériel, et qu'ils sont là, avec tout le matériel qu'il faut, qu'ils n'arrivent même pas à respecter ces ennemis-là. Et puis, est-ce que les ennemis continuent toujours à surprendre nos soldats? Donc, vraiment, c'est un problème que je pense que c'est fondamental, c'est politique d'abord. Voilà.
D'accord.
Les politiques, quand je regarde, bien l'homme que le Burkina Faso, avant, on n'était pas d'être comparé, nous, on était en paix.
D'accord. Merci.
Après, c'est pas la distribution de cette attaque-là.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aziz Yunga depuis Ouagadougou. On a peut-être un dernier auditeur, Soumaïla Kone, à Dakar.
Oui, monsieur, bonsoir.
Bonsoir. Alors,
oui,
vous êtes dans un pays qui n'est pas encore touché, et bon, espérons qu'il ne sera pas touché, mais c'est une situation que les Sénégalais observent avec beaucoup d'intérêt. Comment est-ce que vous jugez tout cela, toutes ces attaques dans les pays voisins, dans les pays du Sahel?
Bon, vraiment, c'est une affaire qui est vraiment meurtrie, qui meurtrie beaucoup nos cœurs, vraiment. C'est chez moi, je suis burkinabé.
Vous êtes burkinabé.
Moi, j'accuse personnellement des fois nos chefs d'État. Parce que des fois, c'est des gars, ils viennent comme s'ils viennent juste pour être comme des candidats, comme par exemple les élèves, sans comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelle est leur mission. Sinon, il ne faut pas être des chefs d'État souris. Donc, il faut être des chefs d'État chats. Il faut savoir contrôler tout autour du pays.
Pas seulement...
Mais si c'est un chef d'État souris, tu restes juste dans ton trou et tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe au coin du pays, au coin ouest, au coin sud. Regardez quoi. Imaginez, c'est pourquoi moi, personnellement, j'aime pas les défilés militaires lors des fêtes d'indépendance. Ils nous montrent des armes, des hommes, et après, il y a un petit problème comme ça, de rien, et des gens qui se lèvent comme ça, et puis viennent tuer, on ne sait même pas d'où viennent ces problèmes comme ça. Imaginez quoi. Il faut que ce soit des gens qui soient comme Sankara. Il se déguisait, lui. Il partait dans tous les coins du pays pour comprendre qu'est-ce que les gens vivent. Mais d'accord. Toi, t'es chef d'État, tu te portes comme ça, tu es là dans tes costumes, et on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et après, on dit les choses. Des fois, ils se disent même qu'ils ne savaient pas que le prix du sucre est là-bas comme ça. Ils ne savent pas que le sucre de telle chose est là-bas comme ça.
Voilà,
mais non,
merci.
Personne ne doit t'informer. C'est merci. Toi-même qui dois le savoir.
Voilà, merci beaucoup, Soumaïla. En tout cas, vous plaidez pour une plus grande implication des autorités dans ce qui se passe dans leur pays, dans les coins et recoins du pays. Merci beaucoup et bon courage. J'ai peut-être quelques commentaires avant de nous quitter. Alban Tchala nous dit que l'extradition des mines d'or dans les zones des trois frontières peut expliquer la situation. Pour inverser la tendance et garantir la sécurité de la population, il faut continuer le dialogue tel que prévu et d'une part, d'autre part, sensibiliser la population à dénoncer les personnes alliées à ces forces. Voilà. Donc, Djibril Diallo dit que le manque d'entente entre pays, c'est vraiment triste. On s'en arrête là. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci à Georges Léonard Seignon. Dans quelques secondes, une autre édition du Monde aujourd'hui avec Clermont et Jibou. Au revoir.
Vous
étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.